l'heure d'un nouveau journal des Amériques et d'Haïti avec Joanne Burgel. Bonjour Joanne.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire, nous irons en Haïti au lendemain d'une manifestation violemment réprimée à Port-au-Prince. Les partis d'opposition avaient appelé à la mobilisation. Les militants demandent toujours le départ du président Jovenel Moïse. Comme chaque jeudi, nous serons en ligne avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Nous reparlerons bien sûr de ces manifestations en Haïti. Et puis à la une de la revue de presse de Stéphanie Schuller, des révélations après l'abandon des charges contre l'ancien ministre de la Défense mexicain Salvador Cienfuegos. Au programme également, en Bolivie, une femme est victime de féminicide tous les 3 jours. Les meurtriers ne sont en général pas poursuivis. Alors les familles de victimes se mobilisent pour demander justice. Voilà pour le programme. En Haïti, la situation est donc tendue au lendemain de manifestations à l'appel des partis d'opposition. La manifestation organisée dans la capitale Port-au-Prince a été violemment réprimée par la police nationale. Une personne a été tuée par balle, de quoi amplifier la colère des militants qui réclament inlassablement la démission du président Jovenel Moïse. Voici le reportage de notre correspondante Amélie Baron.
Quelques centaines de personnes protestaient contre le pouvoir. Elles défilaient sur l'un des principaux axes routiers de la capitale. Soudain, une voiture de police s'est approchée à grande vitesse de l'avant du cortège. Depuis l'intérieur du véhicule, les agents ont tiré à hauteur d'homme. Ont ensuite suivi de nombreuses grenades lacrymogènes lancées sur les manifestants. Parmi eux, Félicien Joubert dénonce cette répression.
Nous sommes en dictature.
Nous sommes en dictature. Imaginez une population qui manifeste avec les mains en l'air et voilà que des agents de la police sont venus tirer sur elle. On demande à Joe Biden de nous porter secours, car Trump, lui, il soutenait Jovenel.
Avant cette dispersion violente, les manifestants, à l'image de Wilbert Saint-Fort, ont surtout dénoncé le climat d'insécurité.
On est arrivé à une situation terrible dans le pays. On ne peut pas accepter d'être chacun de notre côté à rassembler l'argent d'une potentielle rançon. Nous estimons que des décisions doivent être prises pour qu'il n'y ait plus de cas d'enlèvement. Il faut que ça change. Personne n'est à l'abri dans le pays. Pourquoi l'État ne peut pas garantir la sécurité de tous les Haïtiens ?
Des affrontements entre policiers et manifestants ont aussi éclaté dans l'après-midi sur la place du Champ de Mars, à quelques dizaines de mètres du palais présidentiel. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Voilà pour le reportage de notre correspondante Amélie Baron. Et pour continuer de parler de ces manifestations en Haïti, nous sommes en ligne avec le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Joanne.
Les manifestations d'hier n'ont pas seulement eu lieu à Port-au-Prince, mais aussi dans plusieurs villes à travers tout le pays. Franz, quelles étaient les principales revendications ?
Alors, il y avait plusieurs manifestations hier à Port-au-Prince et aussi dans les villes de province, mais particulièrement deux groupes avaient appelé à manifester. L'opposition démocratique et populaire, qui demande le départ du président Jovenel Moïse depuis des mois et des mois, avait appelé à manifester. Les manifestants sont sortis pour eux. Ils ont été dispersés violemment par la police. Ils réclament essentiellement le départ du président Moïse et protestent contre l'insécurité galopante, contre les kidnappings. L'autre groupe a été appelé à manifester à l'appel de Moïse Jean-Charles du parti Petite Dessalines. Eux, ils ne réclament pas immédiatement le départ du président Moïse, mais ils mettent surtout l'accent sur la collusion qui existe entre les systèmes bancaires, enfin, entre ceux qui ont de l'argent en Haïti, le pouvoir en Haïti et les Américains en Haïti. D'ailleurs, la principale manifestation avait pour but final l'ambassade américaine à Tabar dans la banlieue de Port-au-Prince.
Alors hier, France, c'était le 18 novembre, date à laquelle les Haïtiens commémorent chaque année un important événement de leur histoire nationale, la bataille de Vertières. Alors expliquez-nous, France.
Il y a 217 ans, près du Cap-Haïtien, à Vertières, s'est déroulée la dernière bataille de la guerre de l'indépendance haïtienne, bataille qui mettait face à face l'armée indigène, l'armée des Haïtiens, et l'armée française et une escouade envoyée par Napoléon Bonaparte en Haïti pour établir l'esclavage. Cette dernière bataille a été remportée par les troupes haïtiennes et de là est venue l'indépendance haïtienne proclamée le 1er janvier 1804.
Le président haïtien Jovenel Moïse, dont la gestion du pays est donc contestée, hein, on vient d'en parler dans les rues, a livré un message à l'occasion justement des commémorations de cette bataille de Vertières.
Alors, le président a récupéré la métaphore de Vertière à son avantage. Il n'est pas remonté dans l'histoire, mais il a surtout fait une projection pour les jours à venir pour expliquer que lui, il se bat contre le système, il se bat pour le plus grand nombre, il se bat pour le peuple haïtien. Il a des ennemis, ses ennemis sont dans le système, ses ennemis avaient les contrats dans l'électricité particulièrement, et c'est parce qu'il met ses contrats en question, parce qu'il essaie de sortir de ce schéma de captation des ressources d'Haïti qu'il a autant d'ennemis. Il a expliqué qu'il est au plein milieu d'un incendie et qu'il essaie de passer à travers pour avoir des avantages pour le peuple haïtien. Il a récupéré les images de la bataille de Vertière pour expliquer sa bataille d'aujourd'hui.
Merci Franz Duval d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation, rédacteur en chef du Nouvelliste. Très bonne journée.
Au revoir.
La revue de presse des Amériques. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Joanne, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui Stéphanie, on revient sur les raisons qui pourraient expliquer l'abandon par la justice américaine des charges pour narcotrafic contre l'ex-ministre mexicain de la Défense.
Oui, c'est une révélation exclusive du New York Times aujourd'hui. Ces derniers jours, Mexico avait lancé un avertissement inouï à ses homologues de Washington. Si les États-Unis ne revenaient pas sur leur poursuite lancée contre l'ex-ministre de la Défense mexicain pour trafic de drogue, eh bien le Mexique envisagerait d'expulser tous les agents fédéraux américains de la lutte anti-drogue du pays, mettant ainsi en péril un partenariat de plusieurs décennies qui a contribué à traduire en justice des barons de la drogue de premier plan. L'arrestation le mois dernier de Salvador Cienfuegos par des agents fédéraux américains en Californie avait en effet provoqué l'indignation de Mexico, rappelle encore le journal. Le gouvernement mexicain n'en avait pas été informé en amont et considère cette arrestation comme un abus de confiance entre alliés.
La menace d'expulser les agents américains anti-drogue semble en tout cas avoir porté ses fruits, Stéphanie.
Effectivement, hier, à la demande du procureur général américain William Barr lui-même, un juge fédéral de Brooklyn a déclaré qu'il abandonnait les accusations contre M. Cienfuegos, un ancien général de l'armée, rapporte encore le New York Times. Mais ce revirement a provoqué la colère des membres du Congrès américain hier. Bob Menendez, des présidents démocrates de la Commission des Affaires étrangères, réclame des explications. La coopération avec le gouvernement mexicain est essentielle pour maintenir notre sécurité nationale, souligne-t-il, avant d'ajouter: ces relations bilatérales doivent être fondées sur le respect commun de notre propre état de droit et d'une procédure régulière.
Et pendant ce temps, l'accusé, lui, a été libéré sur le champ.
Oui, selon le journal mexicain Proceso, Salvador Cienfuegos est déjà de retour au Mexique. Les agents du département américain de la justice l'ont amené sur le territoire mexicain et libéré, écrit Proceso, qui cite un document officiel remis au juge mexicain en charge de cette affaire. En revanche, ce document ne révèle rien sur le lieu de la libération de l'accusé. Et le New York Times, de son côté, de conclure, il n'y a aucune garantie que Salvador Cienfuegos soit jamais poursuivi en justice au Mexique.
Direction la Colombie à présent, Stéphanie, où environ 500 migrants vénézuéliens ont tenté hier de rentrer de force dans leur pays natal.
Oui, ces migrants ont en effet essayé de traverser le pont international Simon Bolivar, le principal poste frontière entre la Colombie et le Venezuela, rapporte ce matin le journal vénézuélien Efecto Cucuyo. Selon un communiqué publié par les services colombiens de migration, le pont était rempli de Vénézuéliens qui traînaient des sacs et des valises, mais qui se sont vus refuser leur entrée sur le territoire vénézuélien.
La frontière entre le Venezuela et la Colombie est fermée depuis février 2019 et la rupture des relations diplomatiques décidée par le président Nicolas Maduro.
Tout à fait. Et en mars dernier, la Colombie a à son tour décrété la fermeture des frontières avec son voisin pour endiguer la propagation du coronavirus, Joanne. Depuis, c'est des milliers de migrants vénézuéliens qui voudraient rentrer chez eux en raison de la crise sanitaire se trouvent bloqués en Colombie. De plus, la situation hier sur le pont Simón Bolívar posait un risque supplémentaire, souligne le quotidien El Nacional. En raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région frontalière, le pont peut s'effondrer à tout moment si trop de personnes se trouvent sur cette structure. Ce sont ces mêmes intempéries qui empêchent d'ailleurs les migrants vénézuéliens d'emprunter des petits sentiers qui les conduisent de façon clandestine de la Colombie au Venezuela.
Et pour terminer cette revue de presse, à la frontière sud de la Colombie en Équateur, un effondrement dans une mine illégale a fait au moins 3 morts hier.
Oui, 3 personnes ont été retrouvées vivantes aussi. 2 autres restent portées disparues, rapporte El Comercio. Selon le quotidien qui cite les premiers éléments d'une enquête du service équatorien de gestion des risques et des désastres, des excavations dans cette mine située dans la province d'Esmeraldas ont provoqué un glissement de terrain. La Hora qualifie cet accident aujourd'hui de tragédie. Le journal parle même de 5 morts. 2 enfants âgés respectivement de 9 et 11 ans seraient parmi les victimes. Cette région côtière proche de la frontière colombienne est connue pour l'activité minière clandestine, un secteur qui a recours au travail des femmes et aussi des enfants, souligne la Hora. Le gouvernement équatorien de Lénine Moreno a envoyé des équipes de secours sur place.
Merci Stéphanie Schuller, c'était la revue de presse des Amériques. Et nous restons en Amérique du Sud, la Bolivie est, après le Mexique, le 2e pays d'Amérique latine qui compte le plus grand nombre de féminicides. Une femme y meurt tous les 3 jours. Face à la difficulté de faire condamner les meurtriers, les familles des victimes viennent de créer une association en espérant enfin faire avancer la lutte pour obtenir justice. Oriane Verdier les a rencontrées à La Paz.
Visage ne cesse d'apparaître dans l'embrasure de la porte de ce petit bureau improvisé au fond d'un magasin. Chaque nouvel arrivant tient, serré dans ses bras, un dossier, les photos de jeunes filles souriantes. La petite sœur d'Elisabeth est morte après être montée dans un taxi. Le chauffeur est déjà accusé du meurtre d'une autre jeune fille.
Ça fait 3 ans que nous attendons que les personnes impliquées dans la mort de ma sœur soient jugées. Seul le principal suspect a été placé en détention provisoire. Ses complices, eux, ils sont libres. En tant que proches de la victime, nous nous sentons vulnérables parce qu'ils nous ont vus lors des audiences. Ils pourraient essayer de se venger. Des documents aux mains des enquêteurs ont aussi disparu. Les enquêteurs eux-mêmes changent régulièrement. Une semaine, nous avons affaire à un enquêteur, il prend connaissance du cas et la semaine d'après, un nouvel enquêteur arrive. C'est comme s'il fallait tout recommencer à zéro à chaque fois. Dans le cas d'un féminicide, certains policiers pensent que la victime est la coupable. Ils disent « Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans la rue si tard la nuit? Pourquoi était-elle habillée comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça ?» C'est le gros problème dans notre société. Et nous, en plus d'avoir perdu un être cher, nous devons accepter les critiques de certains policiers et de certaines personnes sans cœur qui nous disent que nos proches sont responsables de ce qui leur est arrivé. Ça fait vraiment mal.
À côté d'Elisabeth, sa mère, terrassée par l'impuissance.
Moi, je n'ai pas fait d'études. Je peux à peine écrire mon nom. Je remercie ma fille et mes enfants pour ce qu'ils font. Heureusement, ils ont pu étudier. Si j'avais été seule, ce sale type serait encore en liberté. Maintenant, je veux que justice soit faite.
La famille a dû payer jusqu'au transport des témoins pour que ces derniers soient présents lors de la reconstitution. Assis sur une chaise, un homme attend calmement pour prendre la parole. Sa fille a été tuée par son conjoint. Félix a rapidement découvert que la première compagne de cet homme était morte dans des circonstances similaires.
Sa première compagne est morte de la même manière, alors qu'elle se rendait à une fête. Ils l'ont fait passer pour un accident. Ma fille avait découvert ce drame. C'est pour ça qu'ils l'ont tuée. Et ils l'ont fait passer pour un accident. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Au sein de la famille de mon beau-fils, chacun a une version. La mère, les sœurs, le chauffeur. Chacun déclare des choses différentes. Moi, en tant que père, je ne sais pas comment m'exprimer. Ma petite fille chérie avait 17 ans. Si justice n'est pas rendue, je vais m'en charger. J'ai plus de 60 ans, j'ai vécu ma vie, qu'est-ce qu'il me reste à perdre ?
Ce sentiment d'injustice, l'avocate Paola Barriga le partage avec ses clients depuis 20 ans maintenant.
Ce qui m'interpelle, c'est qu'aucune politique structurelle de prévention n'ait été mise en place depuis tant d'années. Ce sont les familles elles-mêmes qui retrouvent le coupable, qui mènent les enquêtes. Chaque procureur a en charge entre 900 et 1000 cas. Ces derniers temps, nous sommes arrivés à obtenir 13 condamnations après une lutte de 5 ans. Mais à côté de cela, 95 femmes sont décédées depuis le début de l'année 2020.
En s'unissant sous la forme d'une association, les familles espèrent enfin faire résonner leur voix, forcer le gouvernement à regarder en face l'un des sujets majeurs de la société et de la justice bolivienne.
Les féminicides en Bolivie, un reportage signé Oriane Verdier. RFI 9h et 25 minutes à Fort-de-France. Le journal des Outre-mer présenté aujourd'hui par Benoît Ferrand. Bonjour.
Bonjour Joanne.
Le plan Chlordécone 4 a été officiellement présenté hier en Martinique.
Oui, un plan qui s'étalera jusqu'en 2027 et qui sera doté d'un budget de plus de 90 millions d'euros. C'est trois fois plus que pour le précédent plan. Parmi les priorités, la chlordéconémie. Autrement dit, le dépistage gratuit du taux de chlordécone dans le sang. Olivier Coudin est le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé de la Martinique. Il est au micro de Fabrice de Frémont.
Il y a des travaux importants qui ont été faits aussi bien avec les professionnels du CHU, mais aussi avec les professionnels de la diététique, les professionnels qui accompagnent les femmes enceintes, qui accompagnent les nouveau-nés. Et donc nous avons, en tout cas dans un premier temps, un certain nombre de populations qui seront en quelque sorte prioritaires pour pouvoir bénéficier de cette chlordéconémie gratuite qui sera financée par l'Agence régionale de santé avec des fonds nationaux pour pouvoir permettre à certaines populations d'avoir immédiatement accès gratuitement à la chlordéconémie, notamment nous pensons aux populations qui sont suivies dans le cadre de JAFA, aux ouvriers agricoles, nous pensons également aux femmes en âge de procréer, auxquelles on va proposer toute une série d'accompagnements, que ce soit des accompagnements nutritionnels, mais aussi des accompagnements avec des consultations médicales spécialisées au CHU.
Direction la Guadeloupe maintenant avec le coup d'envoi de l'édition 2020 de la campagne Déposons les armes. Coup d'envoi qui a été donné hier, mercredi. Ceux qui possèdent des armes ont jusqu'au 31 décembre prochain pour les ramener au commissariat, à la gendarmerie ou à la police municipale. Écoutez la procureure générale Danielle Drouy-Héral au micro de Ronan Poney.
Il en reste trop et il en reste aussi des armes qui sont détenues légalement, sur lesquelles là je n'ai pas de pouvoir particulier, sauf que elles ne sont pas détenues dans des conditions de sécurité convenables et légales. Quand on a une arme autorisée à la maison, on doit avoir soit un râtelier fermé à clé, soit un coffre-fort. Et on ne laisse pas son arme dans sa table de nuit à la portée de n'importe qui.
Alors la formule semble fonctionner pour les armes détenues par des particuliers. En revanche, l'arrivage clandestin sur les côtes de l'île d'armes de guerre ou de poing serait encore bien loin d'être endigué. Patrice Abdallah du syndicat SPG Police Force Ouvrière est au micro de Christelle Théophile.
Ce ne sont pas des armes qui sont ramenées par la population. Ce sont des armes que nous retrouvons ponctuellement lors des interpellations d'individus qui ont fait usage des armes. Donc on retrouve des armes, des Glock, des Smith & Wesson, vraiment des armes qui sont dangereuses, mais qui ne proviennent pas de cambriolage. À partir du moment qu'on a identifié la problématique, la provenance de ces armes, c'est mettre les moyens autour des côtes pour permettre d'empêcher cette entrée d'armes sur le territoire.
Bon après-midi, Joanne. À demain.
Merci Benoît Ferrand et à demain. Et c'est la fin de ce journal des Amériques et d'Haïti. À la rédaction en chef, Sylvie Noël. À la réalisation, Jérémy Boucher. Une émission à retrouver bien sûr sur notre site RFI.fr ou sur l'application Pure Radio. Rendez-vous demain 14h10, heure de Paris, 8h10, heure de Port-au-Prince. Et ce sera avec Michael Ponge.
Cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM,
dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM,
dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.
Vous avez moins de 30